France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Joséphine Reinhardt, Louise Cognard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Après des mois de surenchère, la Chine et les États-Unis ont acté la suspension pour 3 mois d'une partie des droits de douane. D'abord annoncée par Donald Trump, mais face aux tentatives du président américain d'empêcher la Chine de lui ravir le titre de première puissance mondiale, Pékin renforce ses partenariats avec le reste du monde, avec la Russie, nous en parlions lundi, avec ses voisins d'Asie du Sud-Est, il en était question hier, aujourd'hui avec l'Union européenne.
Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne et le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. La Chine est prête à travailler avec l'Espagne pour construire un partenariat stratégique global plus stable afin d'améliorer le bien-être des populations des deux pays, d'insuffler un nouvel élan aux relations Chine-Union européenne et de contribuer davantage à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde.
À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-européennes, nous faisons face à un contexte international dans lequel de grands changements jamais connus depuis un siècle évoluent à un rythme accéléré. Face à cette situation, la Chine et l'Europe devraient particulièrement tirer parti des précieuses expériences acquises au cours de 50 ans d'échanges.
Beaucoup pensent, y compris en Chine, qu'à long terme, il pourrait être dans l'intérêt de la Chine de gérer de façon plus responsable ses déséquilibres économiques. C'est aussi le point de vue de l'Union européenne. Et je pense que nous devons nous engager de façon constructive avec la Chine pour trouver des solutions dans notre intérêt commun.
Un intérêt commun entre Bruxelles et Pékin, dit ici Ursula von der Leyen, qui a depuis quelques mois rangé sa langue dans sa poche et avec elle tous les substantifs dont elle qualifiait la Chine jusqu'à récemment. Partenaire, mais aussi concurrent et rival systémique. C'était la formule consacrée de la présidente de la Commission européenne, écrite noir sur blanc, aussi dans des documents officiels dès 2019. Mais depuis le retour de Donald Trump aux États-Unis et ses coups de sang douaniers, l'Union européenne et la Chine semblent s'être résolues l'une et l'autre à commercer en bonne entente. Côté chinois, Xi Jinping a pour l'occasion fait lever les sanctions contre plusieurs députés européens, critiques des politiques répressives contre les Ouïghours, invité chaleureusement les responsables des 27 à Pékin pour célébrer cet été 50 ans de relations diplomatiques et fait la liste de son répertoire téléphonique de dirigeants européens la semaine dernière pour prendre des nouvelles. Tout se passe pour le mieux donc, mais côté européen cette fois, on craint que cette bonne entente affichée fasse baisser la garde sur une arrivée massive de produits chinois sur le marché européen, tout ce que la Chine ne vendra plus aux États-Unis pour cause de taxes prohibitives. Certes, les Européens aussi peuvent avoir un intérêt purement commercial à se rapprocher de la Chine, mais ils le font pour l'instant en ordre dispersé. Confère la visite de Pedro Sanchez à Pékin en avril. On entendait à l'instant le discours prononcé à cette occasion par Xi Jinping. Faut-il d'ailleurs s'attendre à ce que la Chine joue sur les divisions entre Européens ? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Elvire Fabry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse senior en géopolitique. Politique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes rapporteuse du groupe de travail sur les relations Union européenne-Chine. Nous sommes également avec François Godemant. Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous êtes historien et sinologue, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. François Godemant, comment lire cette décision qu'a prise la Chine il y a maintenant quelques jours de lever les sanctions qu'elle avait prises 4 ans plus tôt contre 5 députés européens, dont Raphaël Glucksmann? La Chine, d'habitude si susceptible sur cette question, quelle importance donner à ce geste?
Il y a sans aucun doute une offensive de charme, c'est le mot consacré, qui se développe aussi informellement, si vous voulez, qui fait que la Chine retourne dans les couloirs aussi du Parlement européen. Il ne faut pas oublier que le Parlement européen est la bête noire de la Chine depuis longtemps parce qu'il vote plus facilement des résolutions condamnant la Chine pour telle ou telle raison. Dans la levée de ces sanctions vis-à-vis de ses députés, je lis quand même que la Chine a renoncé à obtenir la levée réciproque de sanctions contre des personnalités politiques liées à la répression au Xinjiang. Et ça, c'est une micro-concession qui est passée inaperçue.
Ça, c'est l'Union européenne, en effet, avait pris des sanctions et c'était en réponse à ces sanctions que la Chine avait fait de même.
Donc, c'est assez rare. Mais, ça n'est que 4 députés européens. Prenons l'exemple d'un autre député européen qui se trouve, ne s'est pas représenté cette fois-ci, Reinhard Bütikofer, un vert allemand qui a été à la tête de la délégation pour les relations avec la Chine au Parlement européen et qui a été extrêmement influent et actif. Les sanctions ne sont pas levées contre lui, pas plus que contre des collègues d'instituts de recherche travaillant sur la Chine. Donc c'est vraiment tellement ciblé sur les couloirs du Parlement européen qu'on peut s'interroger.
Couloirs dans lesquels, dites-vous, des diplomates ou des officiels chinois circulent à nouveau ?
Oui.
Oui, ils n'y étaient plus du tout, ils n'y allaient plus ?
Non.
Et là, ils sont à nouveau dans les bâtiments.
Ils sont de nouveau très présents. C'est quelque chose de frappant. Mais le point le plus large, c'est que si vous cherchez une autre concession factuelle faite par les Chinois depuis le lancement de cette offensive de charme, qui en réalité date de septembre-octobre dernier. En gros, le moment où on a tous pu penser que cette fois-ci, Donald Trump avait une forte chance d'être élu, il n'y a rien de concret.
Rien d'autre.
Zéro. Nada.
Elvire Fabry.
Ça fait plusieurs années, en effet, qu'on se regardait dans les yeux en se demandant est-ce que c'est la partie chinoise ou la partie européenne qui va commencer par suspendre ces sanctions. Là, ça vient de la Chine avec un objectif très spécifique, c'est-à-dire que l'impact de ces sanctions avait été d'abord de geler l'accord signé quelques semaines avant sur l'investissement en bilatéral, qu'on appelait le CAI, et qui est resté sur étagère avant de pouvoir être ratifié au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Et aujourd'hui, les Chinois ont un intérêt à ce que l'on reprenne les discussions autour de cet accord et qu'éventuellement on le présente pour ratification, alors que l'on s'intéresse de beaucoup plus près aujourd'hui à la cible des investissements chinois dans l'Union européenne et surtout au fait qu'ils cherchent à contourner en particulier les droits de douane qui ont été appliqués sur l'importation de véhicules électriques pour venir plutôt investir dans l'Union européenne pour accéder au marché européen et que ce soit quelque chose qui puisse être étendu à d'autres produits. Et là, les Européens sont aujourd'hui beaucoup plus méfiants sur cet accord d'investissement parce que ça ne correspond plus aux besoins que l'on avait il y a quelques années. Mais vous ne pouvez plus vous adresser aujourd'hui à un interlocuteur chinois, que ce soit dans l'Union européenne ou à Pékin, sans qu'il vous reparle de cet accord du CAI.
Donc très important pour la Chine, cet accord global sur les investissements que l'Union européenne et la Chine avaient conclu en 2020, qui n'a donc toujours pas été ratifié. Ça revient tout le temps, dites-vous, dans les discussions. Donc on comprend d'ores et déjà que la Chine a un intérêt à trouver un terrain commun d'accord avec l'Union européenne. On verra qui de l'une ou de l'autre en a le plus intérêt. François Godemant, vous disiez tout à l'heure, aucun geste pour l'instant de bonne volonté de la part de la Chine, à part cette levée de sanctions assez symbolique et qui ne concerne pas tous les députés européens qui étaient sous sanctions jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a quand même ne serait-ce qu'une intention de trouver des terrains d'entente sur les différents d'ordre politique quand la Chine s'abstient de voter une résolution ukrainienne aux Nations Unies, par exemple, plutôt que voter contre, comme l'a fait la Russie, la Biélorussie et les États-Unis? Est-ce que c'est un gage donné aux Européens?
Je pense que ça a été un geste astucieux, mais facile, dans la conjonction où c'est Donald Trump qui mène la danse avec la Russie. La Chine n'a pas intérêt au rapprochement russo-américain. Il est d'ailleurs loin de se produire en pratique. Je pense que Poutine, lui non plus, n'en voudra pas vraiment. Mais il n'est pas inutile pour la Chine, malgré l'amitié sans limite avec Poutine, qui a été réaffirmé. Il faut quand même souligner que Xi Jinping s'est rendu pour l'anniversaire du 8 mai, enfin, il y a le 9 mai en Russie, et a multiplié les déclarations d'amitié sans aucune réserve. Mais il est utile, en creux, de montrer que la Chine n'est pas prisonnière de la Russie. L'inverse étant peut-être un peu plus vrai.
Elvire Fabry, vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais juste vous poser une question parce que c'est vrai que pendant que Xi Jinping était à Moscou pour célébrer aux côtés de Vladimir Poutine et de beaucoup d'autres chefs d'État, y compris le président Lula, on parlera d'ailleurs demain plus spécifiquement de l'Amérique latine et de ses relations avec la Chine, il y avait une autre réunion, alors c'était pas exactement en même temps, mais c'était il y a pas très longtemps, qui était à Pékin pour préparer le 50e anniversaire des relations entre la Chine et l'Union européenne. se trouve que vous y étiez à Pékin à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous avez senti dans les mots employés, dans l'ambiance, dans les personnes qui étaient là, et parfois les absents en disent aussi beaucoup sur une intention. Qu'est-ce que vous avez ressenti de ce qu'on nous présente comme une nouvelle donne des relations européo-chinoises?
Il n'y a rien de mieux que d'avoir un agresseur commun, en l'occurrence sur le terrain commercial et avec la personne de Donald Trump, pour finalement se dire qu'on a sans doute intérêt, si ce n'est à se rapprocher, en tout cas à éviter une escalade de tension aussi, parce que les menaces tarifaires de Donald Trump ont un impact sur l'économie chinoise, sur l'économie européenne. On craint qu'il puisse y avoir une réorientation des exportations chinoises vers le marché européen et que ça crée des situations de concurrence très agressives pour nos entreprises. Mais alors, à Pékin, si je puis dire, la première chose qui revient déjà dans les débats, c'est quand même la question ukrainienne que l'on vient d'évoquer. Parce que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le soutien qu'apporte la Chine à l'économie russe, parce que je dirais, Xi Jinping a beau défendre la souveraineté territoriale et dire qu'ils soutiennent l'Ukraine et qu'il a joué un rôle pour éviter une escalade sur le terrain de l'armement nucléaire et d'une confrontation nucléaire. De fait, la Chine soutient et porte l'économie russe à bout de bras depuis le début de la guerre, et pour les Européens, ça pousse la Chine du côté du rival systémique. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé en introduction, ces dernières années, on a quand même vu une évolution de la perception que l'on a de la Chine du partenaire vers le concurrent et aujourd'hui rival systémique. Et tant que l'on ne verra pas la Chine appuyer davantage du côté de Moscou pour favoriser un accord de paix, nous verrons d'abord, pour nous la priorité, c'est une question de sécurité pour les Européens, nous verrons d'abord la Chine comme un rival systémique. Maintenant, on a besoin en effet de se parler. Les Européens ont leurs attentes et leurs revendications depuis plusieurs années qui portent haut et fort sur le terrain de la concurrence inégale et des discriminations commerciales. Et là-dessus, on a affaire à un véritable mur. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout actuellement une intention de réforme pour mieux encadrer les subventions, pour limiter les surcapacités, et qui sont pas simplement un problème européen, qui sont un problème systémique mondial et qui menace toutes les économies à travers le monde.
Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Il s'agit d'une année importante pour les relations sino-européennes. Au début de cette année, le président Xi Jinping a eu un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, M. Antonio Costa. Les deux dirigeants ont mené un échange approfondi sur les relations entre la Chine et l'Union européenne et sont parvenus à d'importants consensus. Cela a impulsé une dynamique pour l'évolution des relations Chine-UE et fourni des orientations stratégiques à leur développement. La Chine et l'Europe, situées aux deux extrémités du continent eurasiatique, n'entretiennent aucun conflit fondamental d'intérêt ni conflit géopolitique. Leur convergence et leur coopération l'emportent largement sur leurs divergences et leurs concurrences. Elles sont partenaires, non pas rivales, et encore moins ennemies.
Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'après l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne, Kai Run, qui évoque ici les 50 ans de ses relations diplomatiques. C'était un discours du mois de mai dernier. Vous parliez tout à l'heure, François Godemont, de cette offensive de charme dont on parle aujourd'hui en évoquant la façon dont les diplomates chinois en Europe tentent de venir auprès de leurs interlocuteurs. C'était dans le South China Morning Post, l'ancien secrétaire général du Parlement européen, l'allemand Klaus Welle, qui disait: les Chinois ont toujours voulu voir l'alliance transatlantique divisée. Je suis simplement surpris qu'il n'ait pas apporté de gâteau pour fêter ça. Quelle partie la Chine pense-t-elle pouvoir tirer de la situation actuelle?
Alors, avant de savoir si elle va en tirer parti, il faut qu'elle évalue la menace qui pèse sur elle du côté des États-Unis. On est dans un véritable triangle sur le plan de vue des relations commerciales. Géopolitiquement, je ne crois pas qu'il y en ait un, parce que en réalité, l'Europe est liée aux États-Unis, ne peut pas faire sans elle, ne peut pas se détacher.
Même si Donald Trump lui demande de faire un choix.
Donald Trump lui demande de se débrouiller par elle-même pour sa propre défense.
Il n'y a pas très longtemps, il était interrogé, on lui a demandé est-ce qu'il faut choisir entre la Chine et les États-Unis. Il a dit peut-être oui.
Oui, mais c'est parce qu'implicitement, il pense qu'elle n'a pas la possibilité de se détacher des États-Unis. Et sur certains plans, c'est vrai. c'est suicidaire, même si Donald Trump, bien sûr, mine notre sécurité actuellement par ses déclarations et son attitude sur l'Ukraine. Mais du côté chinois, le jeu, c'est de voir un petit peu comme au moment où on avait négocié le traité sur les investissements en fin 2019, juste au moment de l'arrivée de Biden. Ce n'est pas encore Trump. Mais on s'interrogeait déjà sur un changement possible après Obama. Et l'intérêt de la Chine était de montrer qu'elle pouvait ouvrir à l'Europe comme alternative pour faire pression sur les États-Unis. C'est comme ça que ce CAI a été signé, avec des concessions qui n'étaient pas suffisantes, à mon sens, mais qui étaient le début de ce jeu triangulaire. Au début, et je pense que c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen a fait son ouverture, bah, il faut aller voir. Après tout, on est pris entre deux feux. Et il peut être intéressant, dans certains cas, on ne peut pas, dans certaines industries, se passer à la fois de l'exportation vers les États-Unis et de l'exportation vers la Chine. Pour prendre cet exemple, on a besoin de redresser la situation. Et donc, c'était logique d'aller voir vers la Chine. Le problème, c'est que la Chine n'a pas vraiment changé, à mon avis, de raisonnement sur un point capital. C'est que pour eux, le partenaire principal, parce que le plus dangereux, parce que celui qui bouge le plus vite, le plus fort, ce sont les États-Unis, pas l'Europe. Je ne dis pas ça pour diminuer l'Europe, parce que l'Europe et l'UE se sont adaptés, ont pris des mesures de défense économique, sont capables d'adopter des mesures de rétorsion, luttent contre la coercition, mais lentement, à son pas, moins radicalement que les menaces de Donald Trump.
Elvire Fabry, est-ce que vous êtes d'accord à ce sujet, que pour la Chine, le sujet principal, ce sont les États-Unis et ce n'est pas tant l'Europe, c'est savoir comment elle va se débrouiller de cette relation avec Donald Trump plutôt que de savoir ce qu'elle va pouvoir engager avec l'Union européenne?
D'autant plus que Donald Trump s'est affranchi des règles du commerce multilatéral, qu'il prend des mesures qui sont discriminatoires, donc il n'y a pas de limite, si je puis dire, à ses initiatives agressives. Et on l'a vu dans cette espèce d'escalade de droits de douane, où on arrivait de manière absurde à 125% contre 145%, donc une situation d'embargo total. Et autant les États-Unis dépendent des importations chinoises que la Chine dépend de l'accès à ce marché d'exportation américain, il y a aussi d'autres enjeux qui se jouent géopolitiques en mer du Sud, en mer de Chine, autour de la question de Taïwan, où il pourrait y avoir une confrontation qui ne peut avoir lieu qu'entre Américains et Chinois, si elle doit avoir lieu.
En vertu de l'accord qui lie les États-Unis et Taïwan.
Alors, je dirais que du point de vue des relations bilatérales entre la Chine et l'Union européenne, la Chine a besoin aujourd'hui de l'Union européenne pour accéder à ce marché, alors que le marché américain se ferme davantage. Mais il faut qu'on garde à l'esprit que ça ne va pas forcément durer très longtemps. Et que depuis l'élection de Donald Trump en 2017 et la guerre commerciale de 2018, les Chinois ont commencé à diversifier énormément leurs échanges avec le reste du monde, sont dans une stratégie de diversification qu'ils ont accélérée. Et à vrai dire, aujourd'hui, ils regardent et ils ne pensent que Global South. Leur marché, c'est le marché américain, c'est le marché européen. Mais pour ne prendre que l'évolution des échanges au mois d'avril, donc juste après les annonces de Donald Trump du 2 avril, tous ces droits de douane dits réciproques et qui sont discriminatoires, le surplus commercial de la Chine vers l'Indonésie a fait plus 37%, vers l'Inde plus 23%, vers le Vietnam plus 23%. Ça montre qu'il y a une élasticité dans la stratégie commerciale chinoise qui lui permet de rebondir et qui va être son principal axe de stratégie économique dans les années qui viennent.
Et vers l'Europe, François Gonnement, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de faire une cartographie des exportations chinoises ces derniers mois et voir s'il y a une redirection massive des flux aussi vers l'Europe?
Pas encore.
Non.
Pour en rajouter dans les chiffres, vers l'Asie du Sud-Est, en 5 ans, la Chine a multiplié par 2,5 fois son excédent commercial. On est à 190 milliards de dollars. On va dire à la louche la moitié des excédents commerciaux avec soit l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est plus du tout une situation marginale. Deuxièmement, et c'est le facteur de fond, il faut se dire qu'à travers toute cette période, et même pendant le premier trimestre, et même pendant le mois d'avril, celui où il a failli se produire ce que vous appelez un embargo, qu'on peut appeler un découplage entre les deux économies, il y a une espèce de chute incroyable du transport de la Chine vers les États-Unis. Même à cette époque-là, les exportations chinoises continuent de monter très légèrement, mais même à cette époque-là, elles ne reculent pas. Ça explique la confiance des Chinois. Et il y a un facteur derrière, qui est structurel, comme l'a dit Elvire, c'est l'extraordinaire déflation qui s'est produite en Chine, des prix, s'est accéléré depuis le Covid et à la sortie du Covid, et qui, à laquelle se rajoute, alors pour les Européens, le fait que nous-mêmes, nous avons des variations par rapport au dollar, alors que le yuan est accroché au dollar. Donc, si vous calculez, depuis 5 ans, l'avantage pris que les Chinois ont pris sur les États-Unis, avec une déflation pendant que les États-Unis ont une inflation folle, pas loin de 35%. Et avec l'Europe, il est entre 20 et 25%. C'est l'acquis à la fois d'un peu de dévaluation par rapport à l'euro et de beaucoup de déflation. Autrement dit, vous pourriez adopter des mesures douanières. Vous pouvez mettre 20 ou 30%
de droits. De toute façon, les prix ont tellement baissé que...
Ça ne veut pas dire que les producteurs chinois ne vont pas devoir s'ajuster, qu'ils ne vont pas devoir faire des concessions, qu'il n'y a pas une lutte au couteau entre eux en Chine, bien sûr. Mais ils restent compétitifs.
Sans sortir le couteau, je pense, Elvire Fabry.
Et cette déflation, elle reflète aussi une perte de confiance du consommateur chinois qui est en berne depuis le Covid, et qui fait que pour les entreprises européennes, pour lesquelles la Chine représente à la fois une usine de fabrication, mais aussi un marché pour vendre à toute cette classe moyenne qui est en pleine explosion. La perspective est beaucoup plus inquiétante pour les entreprises européennes, parce que pour certaines, elles faisaient jusqu'à plus de 30% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc elles dépendent énormément de ce marché. Et aujourd'hui, si l'on cumule cette baisse de la consommation en Chine qui dure depuis 4 ans et les problèmes réglementaires auxquels elles sont de plus en plus confrontées et qui sont des barrières non tarifaires qui font que c'est beaucoup plus difficile de faire du business en Chine, elles sont elles-mêmes très inquiètes sur les perspectives de développement qu'elles peuvent connaître dans les années qui viennent. Donc il y a à la fois des difficultés de concurrence sur le marché européen et puis de développement sur le marché chinois.
Donc vous confirmez l'un et l'autre que la consommation est en berne en Chine, parce que Xi Jinping, quand Ursula von der Leyen dit, et c'était notamment au Financial Times en avril, qu'elle ne tolérera pas que les produits chinois touchés par les tarifs américains soient tous redirigés vers l'Europe, on a du mal à comprendre déjà ce que ça veut dire et si l'Union européenne peut vraiment infléchir cette tendance-là. Mais surtout, Xi Jinping répond, mais non, nous on va stimuler la croissance en Chine, donc les 600 milliards de dollars de produits chinois vendus l'année dernière aux États-Unis, en fait, ils vont se retrouver chez le consommateur chinois. C'est un peu ce qu'il dit. Bon, je dis à gros traits, François Godemont, en fait, c'est pas possible.
Je suis partagé sur la notion de stagnation de la consommation en Chine, parce qu'elle augmente tout de même. Elle augmente peut-être moins que les chiffres officiels, mais bon, on est mal placé, si vous voulez, pour parler de stagnation de la consommation chez les autres. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Xi Jinping regarde le compteur. Si vraiment la situation s'aggrave sur le plan commercial avec les autres, si vraiment les exportations chutent, il sera peut-être obligé de prendre des mesures plus radicales.
Pour l'instant, les exportations augmentent, même
après le tournant du mois de mars, les mesures qu'il prend, elles sont intéressantes à observer, mais elles ne sont pas ce qu'on pourrait appeler une relance keynésienne, une amorce de véritable redistribution, par exemple, le changement de société. On a, et c'est très intéressant, des subventions et une amélioration des retraites des familles rurales. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important parce que c'est vraiment le secteur le plus pauvre de la Chine. On a du soutien pour l'éducation, figurez-vous, des enfants de migrants et une égalisation des conditions. Ça aussi, c'est une lutte contre la pauvreté. Il ne faut pas la négliger parce que c'est un aspect extrêmement positif sur le plan intérieur de la politique de Xi Jinping. Mais ça n'est pas une politique de réflation des salaires, ça n'est pas une grande politique de soutien de la consommation de la classe moyenne. À cette place-là, il y a des subventions sur la demande pour des produits ciblés, par exemple les voitures électriques actuellement, d'autres produits pour lesquels effectivement il y a une surproduction massive. Mais bon, c'est pas un changement de modèle, on n'en est pas du tout là.
Puisque vous évoquez, François Godemont, les voitures électriques, il se trouve que l'Union européenne a décidé de les surtaxer, les voitures électriques chinoises, en octobre dernier, après une enquête sur les subventions accordées au secteur en Chine, et que rapporte ici l'ancien porte-parole de la Commission européenne, Éric Mamère.
Il y a des intérêts significatifs, des intérêts industriels et des intérêts en matière d'emploi en Europe. Et notre enquête a clairement montré qu'il y a des dommages causés par ces pratiques déloyales de la Chine aux intérêts d'une industrie de l'UE, ceux qui produisent des véhicules électriques en Europe.
En quoi cette enquête, Elvire Fabry, l'a clairement montré? Parce que ça fait longtemps que l'Union européenne essaye de prouver ce qu'elle affirme depuis longtemps, que les subventions chinoises, le soutien de l'État est beaucoup plus élevé et massif qu'ailleurs, que cela constituerait une concurrence déloyale. Ça, c'est un énorme sujet de tension entre l'Union européenne et la Chine. Et malgré tous les beaux discours qu'on entend depuis le début de cette émission, ça n'a pas du tout été réglé.
Non, c'est le point d'inertie le plus fort dans le modèle développé par Xi Jinping, parce qu'il a c'est quand même lui qui, à partir de 2012, a infléchi la tendance d'ouverture et de convergence vers un modèle plus libéral, même s'il y avait déjà ce problème structurel quand même de subvention importante. Mais disons que Xi Jinping l'a accentué en déversant des subventions très importantes aux entreprises d'État, aux entreprises publiques, mais aussi en permettant, en fait, en incitant même les provinces à rentrer dans une logique de subvention où elles créaient chacune leur, elles soutenaient leurs champions.
Et lorsque la course à la subvention, une course effrénée.
Exactement. Donc c'est à la fois des subventions et en même temps une concurrence très forte. Et ça, on le souligne sans doute pas assez lorsque l'on est en Europe. Mais le résultat, c'est que ça fait en effet émerger très rapidement, notamment dans les secteurs d'innovation technologique, ça fait émerger des start-up, des entreprises qui croissent très vite. Et en l'occurrence, quand il s'agit de la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques, qui est une révolution technologique, puisqu'il s'agit de réduire l'empreinte carbone de tous nos transports civils. Et qu'on s'est fixé en Europe l'objectif de ne plus vendre de voitures thermiques en 2035. La façon dont les Chinois ont pris très tôt le tournant vers l'électrique que n'ont pas pris les Européens ou même les Américains, et sont arrivés à une innovation technologique de pointe, et notamment dans la fabrication des batteries, fait qu'aujourd'hui, à la fois, cette innovation tôt, je dirais, il y a à partir de 2009, ces subventions et une concurrence terrible qui fait qu'aujourd'hui, ils cassent complètement les prix. Vous avez plus de 100 constructeurs encore aujourd'hui, mais qui vendent à perte pour la plupart, fait qu'on a déjà des champions comme BYD, que aujourd'hui on voit déjà pour beaucoup plus dans les rues en des voitures électriques, qu'on voit déjà beaucoup plus en 6 mois dans les rues européennes, et qui a une situation de concurrence très compliquée à gérer pour les constructeurs européens.
Alors que par ailleurs, Tesla d'Elon Musk s'est plutôt effondré dans les ventes, notamment en Europe. François Gonnement.
Sur les voitures électriques, je vais vous donner un exemple très concret, qui sera presque une réclame. Je suis passionné d'automobile, plus peut-être que l'auditeur moyen de France Culture.
Tu ne tues pas de marque.
L'exemple, c'est la marque qui a cité un modèle qui est lancé, sur lequel les revues automobiles parlent en ce moment en Europe, qui s'appelle la Dolphin. En Chine, elle s'appelle la Seagull. C'est apparemment une très bonne affaire en Europe à 25 000 euros. Et pour la première fois, c'est une voiture qui est adaptée aux rues européennes, au lieu des immenses limousines que les Chinois adorent. Elle est vendue 25 000 euros en Chine. La compagnie, l'entreprise qui la fabrique, vient d'abaisser le prix en Chine à 6 800 euros.
6 800 euros. Donc, en fait,
il y a un peu de guerre des prix. Peut-être, probablement, il y a une lutte au couteau. C'est-à-dire qu'une grande entreprise décide qu'elle va étrangler les autres le plus vite possible pour prendre l'ascendant. Mais vous voyez que face à ça, c'est pas facile. J'ai défendu les surtaxes douanières européennes, mais je suis absolument conscient qu'elles sont absolument insuffisantes pour régler le problème. C'est quelque chose de massif.
Oui, Elvire Fabry.
Alors, elles ne ferment pas le marché européen. Et l'objectif, c'était de pouvoir laisser les entreprises chinoises venir sur le marché européen, mais les inciter plutôt à investir. Et aujourd'hui, il y a déjà comme objectif, dans les nouveaux plans de la Commission européenne, d'inciter et de même contraindre ces investissements à déboucher sur des joint ventures, des associations avec des entreprises européennes, et pour pouvoir favoriser des transferts de technologies. Il va y avoir beaucoup de résistance du côté chinois, mais il faut qu'on parvienne aujourd'hui à opérer ces transferts de technologies.
C'est tout l'objet d'ailleurs d'une note que vous avez écrite, François Gonnement, pour l'Institut Montaigne en septembre
dernier, qui est assez reprise maintenant comme thème. Le problème, c'est, je vous rappelle ce que j'avais écrit à la fin de l'année, il faudrait aussi que les Chinois l'acceptent. L'idée, c'était ce que j'appelais un Deng Xiaoping à l'envers. là où on a, les Chinois ont capté les technologies étrangères, parce qu'il y a une avance maintenant dans certains domaines chinois, y compris pour les processus de fabrication dans l'industrie automobile, pour le software, etc. Et il est logique de dire, bon, bah, plutôt que d'acheter avec des déficits énormes, vous investissez, vous co-investissez, mais vous acceptez que c'est pas des usines tournevis. Donc, c'est effectivement, y compris les pièces détachées fabriquées en Europe, que vous ayez des partenaires européens, et ainsi de suite. Mais les Chinois sont pour l'instant pas sur ce modèle-là, et je pense que les négociations qui sont actuellement en cours achoppent exactement sur ce genre de choses.
Sur ces co-entreprises, pour l'instant, c'est vrai que tous les discours, toutes les discussions semblent porter autour de mesures anti-dumping. Quand l'Europe accuse la Chine de dumping, la Chine répond par cette arrogance du narratif occidental. C'est un piège, une fabulation, une mentalité de mauvaise foi. Ce sont les termes que Harold Thibault, correspondant du Monde, qu'on entendra tout à l'heure pour le focus sur l'entreprise Chine, a récolté au détour d'un article. La Chine, elle, récemment, elle a répondu, elle a surenchéri en surtaxant certains plastiques, les copolymères, je sais pas comment on dit, POM, c'est ça, POM, que les industries automobiles ou électroniques notamment utilisent en alternative aux métaux. Et la Chine dit que c'est une mesure anti-dumping de sa part vis-à-vis de produits qui sont entre autres importés depuis l'Europe, mais aussi depuis les États-Unis. Sur quel point est-ce qu'il peut y avoir discussion, Elvire Fabry ? Sur ce point-là, apparemment, c'est totalement fermé. Mais sur quel point Europe et Chine peuvent discuter ? Sur les transferts de technologies, par exemple, que vous évoquiez rapidement ?
De toute façon, ce seront des décisions, je dirais, unilatérales de l'Union européenne. La question, c'est de savoir si on peut développer plus un terrain de coopération. On a été forcé, je dirais, les entreprises étrangères, pas simplement européennes, mais américaines, japonaises et autres, ont été forcées à faire des transferts de technologies si elles voulaient accéder au marché chinois. Il s'agit aujourd'hui de renverser la logique, c'est-à-dire que ça a bénéficié à une Chine qui s'est énormément développée. Et il faut voir le parcours qui a été, même le parcours de la Chine ces 20 dernières années, c'est quand même fascinant. Et notamment de voir la façon dont elle a développé une capacité d'innovation dont on n'a pas encore complètement conscience en Europe. On a encore un peu l'image d'une Chine d'Épinal qui est une grande usine avec des ouvriers qui sont des esclaves. La Chine est aujourd'hui une Chine qui ne pense, qui ne respire que technologie. Qui ne pense que intelligence artificielle, application de l'intelligence artificielle, et qui va nous en très peu de temps nous mettre sous le nez des exemples d'innovation qu'on n'aura pas vu venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir cette capacité d'innovation dans le secteur des véhicules électriques, mais aujourd'hui c'est toute la révolution de l'intelligence artificielle et des supercalculateurs pour lesquels elle va être à la pointe autant que les États-Unis. On a aussi des bons éléments, mais on ne fait pas du tout ce qu'il faut dans l'Union européenne en termes de mutualisation des capacités de recherche et d'innovation, parce qu'on ne mutualise pas non plus les capacités de financement. Et là, il faut qu'on passe à une autre échelle.
Alors, avant de mutualiser, encore faut-il se mettre d'accord à 27 sur l'approche à avoir avec la Chine. Et là, on a des voix assez discordantes, ne serait-ce que parce que tous les pays européens ne sont pas égaux face à la Chine en termes d'exportation. Par exemple, l'Irlande et le Luxembourg sont les seuls pays à avoir un excédent commercial avec la Chine. On comprend bien pourquoi sur les services. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, à l'inverse, importent beaucoup de Chine, mais exportent aussi beaucoup vers la Chine. L'Espagne voudrait bien pouvoir vendre davantage ses produits vers la Chine. Pour l'instant, les échanges restent très déséquilibrés, mais Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, avait fait le choix en avril de faire seul une visite à Pékin.
España es partidaria de unas relaciones entre la Unión Europea y China más equilibradas.
L'Espagne est favorable à des relations plus équilibrées entre l'UE et la Chine, à la recherche de solutions négociées à nos différends qui existent et à une plus grande coopération dans les domaines d'intérêt commun.
Sí, como he dicho también en otras ocasiones, publiquement entre les médias de communication.
J'ai fait savoir au président Xi Jinping, comme je l'ai dit publiquement dans les médias à d'autres occasions, que les guerres commerciales ne sont pas bonnes car personne n'en sort gagnant.
Estoy seguro
Il est clair que le monde a besoin que la Chine et les États-Unis se parlent.
Le monde a besoin que la Chine et les États-Unis se parlent. Pedro Sanchez, lors de sa visite à Pékin il y a quelques semaines, François Godemont, est-ce qu'on est là dans un cas de figure identique, comme on l'a lu ici et là, à la Hongrie de Viktor Orban, c'est-à-dire l'Espagne ferait cavalier seul dans ses relations avec la Chine, sans consulter l'Union européenne. Est-ce que la comparaison vous paraît pertinente ?
Pas tout à fait, parce que bon. L'Espagne est structurellement concurrentielle, en particulier de la France, pour capter des investissements industriels. C'est pas nouveau, d'ailleurs, l'industrie allemande joue à saute-mouton au-dessus de la France et investit dans l'industrie automobile en Espagne, pour prendre cet exemple. Les salaires étaient plus bas, et ainsi de suite. Pedro Sanchez, à son crédit, quand il a été poussé par Xi Jinping sur la question des véhicules électriques, a répondu que ce n'était pas de son ressort, mais de celui de la Commission européenne. Il ne s'est pas engagé. Et il avait pris une leçon assez dure, Pedro Sanchez, parce qu'il avait commencé à engranger des premiers investissements. Par exemple, une ex-usine Nissan à Barcelone devait être prise par Geely. Puis ça a été stoppé par les Chinois quand l'Espagne s'est abstenue sur le vote des taxes supplémentaires sur les véhicules électriques. Pour la Chine, il fallait qu'elle s'oppose. Clairement. Alors qu'avec Orban, on est dans un cas où on est parti lié complètement. Et un des grands problèmes qu'avec l'Union européenne, ça va être d'enrayer le phénomène Orban et le phénomène hongrois et d'éviter qu'il ne se répète dans des pays qui ont des accords d'association ou qui sont pratiquement dans le marché unique. Par exemple, pour la Turquie, il y a très peu de clauses l'empêchant de situer des investissements industriels chinois ou autres sur son sol et les importer librement, les exporter librement vers le marché européen. Pour le Maroc, il n'y a pas vraiment de clause d'origine. L'Afrique du Sud est aussi dans cette situation-là. On va devoir prendre des mesures à l'américaine sur des pays tiers si on ne veut pas être complètement contourné.
Qu'est-ce que ça veut dire des mesures à l'américaine, pardon ?
Les mesures à l'américaine, c'est les mesures qui disent si vous exportez vers chez nous des produits qui contiennent des composants chinois dont on ne veut pas, on va les surtaxer aussi, vos produits, ou même les interdire d'importation. Le débat n'est pas facile entre libre-échange et contrôle commercial.
Elvire Fabry, entre pays membres de l'Union européenne, on entend qu'il y a quand même des divergences de vues. Est-ce que la Chine veut et peut jouer de ces différences d'approche ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans son intérêt de voir les 27 divisés ?
La Chine a à la fois soutenu le renforcement de l'Union européenne et toujours joué sur ces deux niveaux. Et en fait, elle s'adresse beaucoup plus au capital qu'à Bruxelles, précisément parce qu'à Bruxelles, la Commission européenne a une compétence exclusive en matière de commerce, donc ça lui donne beaucoup de poids. Il faut quand même rappeler que l'Union européenne reste encore la première puissance commerciale mondiale, malgré la puissance chinoise dans le secteur des biens, mais elle est beaucoup moins compétitive dans le secteur des services. Et il y en a peut-être pas pour longtemps, mais enfin, on a un poids et on a des nouveaux instruments aujourd'hui de défense commerciale qui peuvent nous permettre de faire beaucoup de choses et d'être assez offensifs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la Chine a tout intérêt à jouer sur les relations bilatérales avec les États membres. Surtout, elle se méfie du Parlement européen, comme François Godemont l'avait rappelé tout à l'heure. Et que l'on voit, que l'on assiste aujourd'hui un peu à un défilé de chefs d'État ou de représentants, enfin de gouvernement, aller à Pékin, on peut comprendre parce que finalement, ils s'adressent autant à leur électorat national en faisant ce type de démarche. C'est contre-productif parce que c'est justement en pesant à 27, ou j'ai envie de dire à 26, puisqu'en effet la Hongrie de toute façon est un cas perdu dans la situation actuelle. Et on a bien vu que même sur les dernières mesures, le paquet de mesures qui a été voté le 6 avril contre les droits de douane de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium, on avait 26 pour et la Hongrie qui s'opposait. Donc il faut en fait chercher à consolider une unanimité à 26. Et qu'on a besoin aujourd'hui de rapprocher les capitales sur leur positionnement vis-à-vis de la Chine. Elles ont des structures industrielles différentes qui font que leur dépendance à la Chine varie et elles tardent beaucoup trop à aujourd'hui se rapprocher sur les enjeux de moyen et long terme. Beaucoup de choses dans le rapport de force entre Chine et Union européenne vont se jouer dans les quelques années qui viennent.
François Godemont ?
Même dans les quelques mois qui viennent, dans les quelques semaines qui viennent, parce que ce triangle, il s'accentue. Il y a eu la pause décrétée par Donald Trump vis-à-vis de l'Europe pour les sanctions douanières, et puis la réaccélération il y a quelques jours, il a dit c'est le 1er juin, et puis il vient après un coup de fil avec von der Leyen de reculer ça au 5 juillet. Le 15 juillet, 10 jours après, c'est le moment où les États-Unis commencent à revoir leur pause avec la Chine, elle-même de 90 jours, qui va jusqu'au mois d'août. Madame von der Leyen va à Pékin de nouveau, entre, je crois, le 20 et le 25 juillet. C'est un véritable triangle dans lequel chacun s'observe. Je ne suis pas totalement pessimiste sur l'Europe, justement parce qu'elle est menacée par une double crise. On dit toujours que l'Europe avance à travers les crises. Là, je pense qu'elle est menacée de façon tellement existentielle, des deux côtés, que beaucoup de pays européens comprennent qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de négocier de façon relativement unifiée à travers la Commission. Je ne sais pas quel en sera le résultat, mais je vois moins la Chine jouer des divisions de ce point de vue-là qu'il y a 2, 3 ou 5 ans.
De Dantès Dalian. Alors cette chanson qui date de 2018, elle veut dire le charme de Lyon, puisque ce chanteur est originaire de Lyon et c'est là qu'il a appris le mandarin en classe de 6e. Il s'appelle Christophe Isquin et après des études universitaires en Chine, il s'est installé à Shanghai en 2000 et a lancé sa carrière musicale en chantant en mandarin. Il dit là, par exemple, dans le sud-est de la France, il y a un endroit magnifique avec de beaux paysages, une architecture parfaite et des marchés animés. C'est une perle de l'Occident, Lyon, avec ses saucissons, ses papillotes, Bocuse, etc. Et ça, je lui donne raison. Autant de produits, en tout cas, que la Chine menace régulièrement de taxer quand le ton monte avec l'Union européenne. Mais l'heure est pour l'instant à la recherche de compromis. C'est le troisième épisode de notre série sur les partenariats qu'on renforce face à la Chine, face à la guerre commerciale que lui livre Donald Trump. Avec l'Union européenne, Pékin trouve des terrains d'entente, mais les discussions sont âpres. Le 20 mai dernier, Bruxelles annonçait mettre en place une surtaxe de 2 euros sur les petits colis entrant dans l'Union, et cette taxe vise principalement les entreprises chinoises de e-commerce comme Temu ou comme Shein.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Tout ça, ça fait partie de l'atelier. Là, c'est pour la marque Shein. Ils nous passent des commandes tous les jours.
Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h.
Officiellement, la marque Shein demande à ses fournisseurs de ne pas travailler plus de 8 heures par jour et jamais plus de 20 jours d'affilée. Dans les faits, les fournisseurs acceptent de payer des amendes ou parviennent à contourner les règles pour imposer ces horaires aux ouvriers, parce qu'il faut tenir la cadence exigée par les millions de commandes quotidiennes que Shein redirige vers ses usines, en particulier à Canton. Usine que vous avez visitée, Harold Thibault, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant du journal Le Monde à Pékin et vous avez récemment visité plusieurs ateliers où se fabriquent les vêtements pour la marque Shein dans la ville de Canton, dans un quartier entièrement consacré à l'industrie textile. Peut-être d'abord, pour qu'on en ait quelques images, comment ce quartier vit véritablement autour de cette industrie textile, qu'il les absorbe le matin ou qu'il les régurgite le soir? Comment ce quartier vit par et autour des milliers d'ouvriers de Canton?
Alors c'est assez intéressant parce qu'en la première partie de l'émission, on parlait beaucoup des nouvelles technologies et des usines ultra modernes qu'on voit émerger en Chine. Et là, justement, ce qu'on voit dans ces quartiers de canton, c'est encore la Chine d'avant, c'est-à-dire des immeubles entiers avec des jeunes et des moins jeunes qui sont derrière des machines à coudre, à bosser du matin au soir. Ce qui ressemble un peu aux usines de la sueur qu'on peut imaginer au Cambodge ou au Bangladesh.
Et certains...
Donc c'est la Chine dure.
La Chine dure avec ces restaurants, ces petites cantines à l'affût sur les heures de pause des ouvriers. Certains profitent, racontez-vous, de leur pause pour filer faire une petite sieste dans leur dortoir à quelques minutes de l'usine pour certains, ou à pianoter sur leur téléphone pour acheter en ligne les vêtements qu'ils ou elles ont fabriqués, parce que la particularité de Chine, c'est que la marque vend partout, sauf en Chine.
Oui, donc il y a plusieurs nouveaux géants du e-commerce chinois qui ont émergé ces dernières années. Chine est l'un d'eux. Il y en a un autre qui s'appelle Temu pour sa version internationale, qui s'appelle Pinduoduo en Chine. Mais Chine, lui, qui s'est lancé il y a une dizaine d'années, s'est focalisé que sur le marché étranger. Donc c'est un petit peu particulier, effectivement.
Donc un million de vêtements écoulés chaque jour depuis Canton, notamment vers les États-Unis et l'Europe, la plupart en petits colis. Et vous êtes allé sur place avant que l'Europe ne remette en place les frais de 2 euros sur chaque petit colis qui entre dans l'Union européenne. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure ça freine déjà ou pas les commandes depuis les pays de l'Union européenne?
Alors, c'est difficile de dire si ça freine les commandes. Je pense que 2 euros sur des jeans ou des débardeurs qui sont à 10 ou 12 euros, c'est pas forcément complètement rédhibitoire. On peut imaginer que Chine va faire pression, va peut-être repasser une partie des coûts sur le client et puis aussi faire encore davantage pression sur ses 7000 fournisseurs qui, eux, ont déjà des très, très faibles marges. Donc, ils estiment qu'ils n'ont pas de capacité de baisser encore davantage les prix. Moi, ce qui m'a surpris dans ce reportage, c'est que j'ai trouvé relativement facilement, je pensais que c'était un reportage très très difficile à faire, et puis en fait j'ai trouvé des petits patrons d'ateliers qui étaient d'accord de me parler, et c'était donc en plein pendant la guerre commerciale avec les États-Unis, et j'ai compris qu'ils acceptaient de me voir parce qu'ils étaient très curieux de savoir comment dans l'Union européenne on voyait cette arrivée du textile, cette arrivée massive du textile chinois, et si l'Europe à son tour allait se refermer aux produits chinois. Donc ils avaient, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle peur de cette fermeture européenne.
En tout cas, oui, ceux que vous avez rencontrés, l'un des quatre patrons sous-traitants que vous avez rencontrés, semble plus inquiet par la fermeture du marché européen éventuellement à leurs vêtements qu'à la guerre commerciale avec les États-Unis. On l'entend bien, en effet, dans ce que vous disent ces patrons, en tout cas au siège de Chine. On s'inquiète des deux et de leurs conséquences directes, puisque Chine n'a pas fait l'entrée qu'elle espérait à la bourse de Londres. D'après le Financial Times, Chine ne vaut plus que 26 milliards d'euros, compte près de 60 milliards lors de sa dernière levée de fonds il y a 2 ans. Vous parliez tout à l'heure, Harold Thibault, du coût de chaque vêtement, du prix de chaque vêtement. Vous parliez 12 euros pour un jean. Vous racontez dans votre reportage comment le prix est fixé. Alors par exemple, un chemisier d'été qui aura coûté 4 euros de fabrication, vendu 12 euros sur le site en Europe, et dans les 8 euros différence, il faut compter le transport par avion cargo, le stockage, les coûts opérationnels de Chine et sa marge. Sur quoi Chine pourrait jouer si elle devait faire face à de nouveaux droits de douane ou à de nouvelles taxes?
Alors, c'est une industrie ultra concurrentielle, donc ils peuvent essayer de faire encore pression davantage sur leurs fournisseurs, mais eux disent qu'ils peuvent faire très peu d'efforts supplémentaires. C'est un truc qu'on entend beaucoup dans l'industrie en Chine ces derniers mois, ces dernières années, c'est qu'il y a tellement de production, donc on pourrait dire de surproduction, que les prix sont déjà cassés, donc on parlait d'une période de déflation, et donc il n'y a pas de possibilité de faire encore davantage d'efforts. Donc après, une option, c'est de délocaliser vers des pays comme l'Asie du Sud-Est. Donc il y a des producteurs qui le font déjà, qui sont partis vers le Vietnam, vers le Cambodge, vers le Bangladesh, mais il y a beaucoup de patrons d'ateliers chinois au Guangdong, à Canton, qui trouvent quand même que la productivité, l'efficacité de la production en Chine est relativement imbattable, que la proximité des chaînes d'approvisionnement, parce qu'une bonne partie du coton vient de Chine, donc notamment de régions controversées comme le Xinjiang, où a lieu la répression des Ouïghours. Et donc on peut se faire approvisionner en textile en fait en quelques heures seulement, tandis que si on est basé à Phnom Penh ou si on est basé au Vietnam, ça prend un petit peu plus de temps.
Donc
c'est difficile de battre la Chine, en fait. Ce qui fait que même si les salaires ont augmenté ces dernières années, elle continue d'assurer, je crois, 30% de la production de l'habillement mondial.
Donc le textile, secteur utilisé par la Chine dans cette course ou concurrence avec les autres pays dans le commerce mondial, est-ce que Chine est pour autant une de ces entreprises chinoises sur lesquelles le Parti communiste a la main et auxquelles il dicte la marche à suivre ?
Alors, le Parti communiste chinois a une prise sur toutes les entreprises qui sont basées en Chine, puisqu'ils dépendent de leurs droits. Je pense que ça fait pas du tout partie des entreprises les plus stratégiques ou les plus proches du parti. Donc, soit les entreprises d'État comme les géants du pétrole ou les géants du secteur bancaire, ou des entreprises dont on pense qu'elles ne sont pas forcément directement à capitaux étatiques, mais qui sont très stratégiques, comme Huawei, le champion des télécommunications, qui sont certainement plus importants pour Pékin. Donc le textile est un secteur, une vieille industrie, certainement pas majeure dans la course technologique face aux États-Unis, mais ça représente des centaines de milliers d'emplois, notamment dans la région du Guangdong, qui est la plus industrialisée et la plus importante pour l'économie chinoise. Et donc si vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sur le carreau, ça crée des problèmes sociaux majeurs. Donc c'est pas forcément stratégique du point de vue des projets de Pékin pour l'avenir, mais c'est important pour l'équilibre économique de la Chine.
Peut-être un dernier mot, Harold Thibault, pour conclure sur une touche plus visuelle et humaine, parce que quand on parle de commerce mondial, c'est toujours difficile de visualiser tout ce que ça implique. À la fin de votre article, vous décrivez les journaliers de l'industrie de la mode sur le modèle des journaliers de l'agriculture ou du bâtiment. Il y a donc des ouvriers qui chaque jour se proposent pour venir travailler dans une usine textile. À Canton, à quoi ça ressemble, ce marché de la main-d'œuvre ?
Tout à fait. Donc, il y a des gens qui ont la chance, entre guillemets, d'être salariés. Donc, ils font quand même beaucoup d'heures sup pour avoir un revenu suffisant. Et puis, il y a des gens qui sont payés juste à la journée. Et donc, tous les matins, à 7 heures, ils vont pointer sur un marché de la main-d'œuvre. Et les petits patrons d'atelier viennent les chercher et ils ont un morceau de vêtement à l'épaule et ils leur demandent est-ce que tu sais faire la couture pour je sais pas cette entrejambe ou pour cette manche et pour combien tu me le fais pour la journée et donc c'est une négociation vraiment comme ça dans un coin de rue c'est des gens qui ont une condition sociale extrêmement difficile qu'on a du mal à imaginer quand on raconte au fil des papiers l'autre Chine, c'est-à-dire extrêmement moderne, qui est à la pointe dans l'automobile électrique, dans les semi-conducteurs, dans les batteries, etc. Cette autre Chine existe encore.
L'autre Chine, c'est H-I-N-E, l'homophonie avec la marque Chine, S-H-E-I-N, n'est pas toujours évidente à saisir, mais on a bien compris, Harold Thibault, je vous remercie beaucoup. On peut lire vos reportages et articles, analyses dans le journal Le Monde pour lequel vous êtes correspondant à Pékin. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur cette, Elvire Fabry, François de Gaulmont, vous êtes toujours avec nous, sur cette mesure qu'a prise la Commission européenne. Les petits colis dont on estime qu'ils sont de faible valeur, moins de 150 euros, sont désormais. Alors, on ne dit pas taxés, apparemment, il ne faut pas dire taxés. 2 euros, ce ne sont pas une taxe, ce seraient des frais parce qu'il faut payer les douaniers qui ont des frais de gestion incroyables. Cette charge de travail énorme que représentent les statistiques des services de douane, c'est quand même plus de 145 colis de cette valeur inférieure à 150 euros qui arrivent chaque seconde sur le marché européen. 145 colis par seconde, dont plus de 90% viennent de Chine. Est-ce que néanmoins, Chine, donc le pays, est-ce que néanmoins la Commission peut tout dans cette affaire ? Peut-être chacun pour conclure.
La Commission ne peut pas tout parce que d'abord c'est incontrôlable. Ça fait 4 milliards de colis par an. Le contenu est à peu près incontrôlable. La mesure prise est de bon sens parce que impossible d'évaluer la valeur à l'arrivée de ces colis. Moi, ça fait très longtemps que j'avais préconisé des étiquettes ou des puces RFID, mais c'est cher, c'est compliqué. Apparemment, c'est pas prêt de s'instaurer. À défaut de ça, une taxe uniforme, c'est déjà quelque chose. Mais le problème essentiel, ce sera l'arbitrage avec le consommateur. Parce que c'est pas vous, moi, c'est pas les gens relativement aisés, cultivés qui achètent ça. C'est toute la fraction qui a de bas revenus aux États-Unis comme en Europe qui achète ces produits et qui y trouve du niveau de vie à bon compte.
Elvire Fabry.
Ben, ce sont des produits qui d'abord présentent des enjeux de sécurité pour le respect des normes européennes et c'est ça qui fait que ça encombre les douanes européennes et par ailleurs il faut bien se rendre compte que ce sont des achats qui sont en train de progressivement tuer de l'emploi en Europe chaque jour. Donc le consommateur et le travailleur là doivent se réconcilier et il faut avoir un comportement responsable dans l'achat sur ces plateformes.
Merci beaucoup. Oui, pardon, Elvire Fabry, on arrive à à la fin de cette discussion. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, ainsi que François Godemont, donc l'Institut Jacques Delors pour vie, vous, Elvire Fabry, l'Institut Montaigne, François Godemont, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Présentée aujourd'hui par Estelle Kammerer, qui est, vous vous êtes aujourd'hui intéressée, Estelle, à la grève des camionneurs en Iran.
Cela fait une semaine que les conducteurs de poids lourds iraniens manifestent contre la hausse des prix du carburant. Malgré la pression du gouvernement, le mouvement s'est étendu à plus de 100 villes dans le pays, selon le média iranien d'opposition, Ayran International. En Iran, le secteur ferroviaire est peu développé. 90% du transit des marchandises est assuré par le transport routier, selon les chiffres officiels cités par Courrier International. La grève a débuté après l'annonce de la hausse du prix du diesel par le gouvernement iranien le 19 mai dernier. Les camions se sont garés au bord des routes ou roulent à vide sur les autoroutes et refusent de transporter les marchandises d'après les médias d'opposition iraniens. Dans une vidéo obtenue par la BBC persiane, un conducteur filme une longue file de camions arrêtés. Sa voix a été modifiée, mais on peut l'entendre dire. Le policier a commencé à noter les plaques d'immatriculation des camions pour donner des amendes, mais les conducteurs sont en grève et n'ont pas peur des amendes. En plus de la question du carburant, les conducteurs exigent de meilleures conditions de travail, des tarifs de fret plus élevés et un allègement des coûts d'assurance, selon la chaîne d'opposition Ayran International. Le média persanophone cite également le communiqué du syndicat des conducteurs de poids lourds iraniens, selon lequel la police aurait gazé les manifestants et arrêté plusieurs d'entre eux. Les camionneurs s'engagent à faire grève une semaine, voire plus, s'ils n'obtiennent pas de réponse. Manifester n'est pas un crime, mais un droit, peut-on lire dans ce communiqué, également cité par Iran Wire, un autre média d'opposition. Ces mobilisations se sont aussi étendues à d'autres secteurs. Les agriculteurs protestent contre le manque de camions disponibles, ce qui entraîne une pénurie de fruits et légumes sur les marchés de Téhéran. En parallèle, les boulangers iraniens sont aussi en grève. Des manifestations qui ont commencé quelques jours avant celles des camionneurs et continuent aujourd'hui, d'après les médias d'opposition. Ils dénoncent notamment les pannes de courant qui arrivent sans prévenir et entraînent de grosses pertes financières, puisque la pâte à pain n'est pas bien conservée sans électricité, écrit Iran Wire. Dans un pays à l'économie très fragile, ces grèves risquent de provoquer des pertes commerciales de plusieurs milliards de dollars et pourraient nuire davantage à la position économique dans la région. Pour Iran News Update, ces manifestations sont le cœur battant d'une société exaspérée par la répression, le désespoir économique et le délabrement institutionnel. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre en Iran, écrit le bloc d'opposition. Du côté des responsables politiques, un d'eux a rejeté la faute sur des médias hostile à la révolution, selon le quotidien réformateur Etemad, cité par Courrier International, puisque la grève a principalement été relayée par des médias d'opposition au régime.
Vous avez également, Estelle, pour votre revue de presse, ouvert la presse bulgare, où la population en Bulgarie, d'après ce journal, se désintéresse de la culture.
Près de la moitié des Bulgares n'auraient pas lu un seul livre en 2024, relève le quotidien Sega. Plus de la moitié d'entre eux ne sont jamais allés au théâtre ou au cinéma et plus de 80% n'ont jamais assisté à un opéra ou un concert. Des chiffres publiés dans une étude sociologique menée sur plus de 1000 personnes, appelée « Accès à la culture », faite tous les ans depuis 3 ans en Bulgarie. Les raisons, tout est trop cher et les Bulgares n'ont pas de temps à consacrer à la culture. Beaucoup ont aussi précisé ne pas y avoir accès, selon les chiffres consultés par les médias bulgares. Des chiffres en baisse, indique le média Sega. L'année dernière, le Bulgare moyen a lu 8 à 9 livres, compte 9 et 10 en 2022. À titre de comparaison, le Français moyen lit en moyenne 18 livres par an. Dans une longue analyse de l'étude, Mediapool propose quelques solutions faites par des experts, comme un pass culture semblable au nôtre en France, mais de 6 à 26 ans, soit plus d'un milliard de Bulgares concernés, explique Courrier International. Mais l'accessibilité reste un problème. Le média bulgare Mediapool explique qu'il faudrait introduire un système de bons de participation et de transport pour les habitants des villages et des régions périphériques du pays. Des solutions difficiles à mettre en place lorsque l'on sait que les chiffres de l'étude sont symboliques de l'échec des politiques culturelles du pays, constate une des coordinatrices de l'étude, Yanni Vataneva, citée par des médias bulgares, mais aussi le symbole de l'instabilité politique. En janvier dernier, la Bulgarie s'est dotée de son 7e gouvernement en 3 ans.
Merci beaucoup Estelle Kammerer.